Bonjour tout le monde, bienvenue. Si vous voulez vous tourner avec moi dans Romains 16, on va continuer notre étude, finir notre étude. Nous l'avons déjà lu la semaine dernière, mais comme j'ai trop parlé sur la première partie, sur les salutations, on a besoin de revenir pour vraiment se concentrer sur la toute dernière partie du chapitre 16. Donc on est dans Romains 16, à partir du verset 17. « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. » Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon collaborateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes compatriotes. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, qui m'accueille et chez qui toute l'Église se réunit, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Dieu peut vous affermir selon l'Évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. À ce Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble ce matin. Merci pour ce texte, merci pour cet épître aux Romains. Aide-nous à recevoir de ta part, Seigneur, ce que tu as pour chacun d'entre nous ce matin. Aide-moi à dire ce que tu veux que je dise ce matin. Et Seigneur, nous te remettons ce temps. En ton nom, nous prions. Amen. Alors, on a parlé la semaine dernière du livre, un petit peu en survol. On a rappelé que c'était une lettre d'abord et que Paul écrit à ses amis. Il y a une section riche de salutations dans la partie qui précède notre texte d'aujourd'hui. On a dit que c'était une lettre très riche et profonde au niveau théologique, au niveau spirituel, qu'il y a de grandes vérités, une grande richesse intellectuelle. Mais on a dit que Paul avait ce souci et il écrivait avant tout à des amis à lui. Et donc à la fin, il passe pas mal de temps à les nommer, à leur dire bonjour. Et on avait dit qu'on voit que Paul n'oublie pas, malgré les grandes idées théologiques, l'importance de la personne et l'amour qu'il a pour ses frères et sœurs dans toutes les églises où il était impliqué. Et on avait mentionné que Paul nous enseigne de grandes vérités sur la Bible, sur Dieu, sur le salut, mais qu'il avait passé toute une partie du livre ensuite à tempérer d'une certaine manière en rappelant l'idée d'un amour pratique. L'idée de s'aimer les uns les autres dans l'Église en tant que frères et sœurs, et l'idée de mettre l'intérêt de l'autre avant son propre intérêt, de chercher à aimer l'autre de manière pratique. Et c'est un équilibre qui existe dans la foi chrétienne entre un attachement à la vérité, un attachement à ce qui est vrai, ce que Dieu nous enseigne, et en même temps le fait d'avoir un amour qui règne et une unité. Et parfois, ces deux choses s'opposent. Si on s'attache trop à la vérité, on peut devenir légaliste et manquer d'amour, juger les autres et avoir de la fierté, se placer au-dessus des autres et manquer d'amour. Mais ça nous arrive aussi d'avoir une idée où on dit, bon, ben, trop de vérité, ça tue l'amour, trop de fierté intellectuelle, etc. Quand on étudie la théologie, ça nous rend trop fiers. Donc on va un petit peu laisser de côté et on va se concentrer sur l'unité. Et à ce moment-là, on peut tomber dans un excès inverse où on est dans un excès de tolérance, d'amour, où on dit non, la doctrine, ça n'importe pas, on va dire qu'on s'aime tous, on se tolère tous, mais on va pas aller chercher à corriger l'autre si visiblement il fait quelque chose qui est contraire à ce qui est marqué dans la Bible. Et donc il y a cet équilibre qui doit rester toujours dans l'Église et qui est difficile. Et la foi chrétienne, c'est une foi qui est faite d'équilibre. Il y a beaucoup de choses comme ça quand on étudie la Bible où on voit des équilibres qui sont difficiles à garder, parce que nous, en tant qu'êtres humains, on tend plutôt vers les extrêmes, parce que d'une certaine manière, c'est plus facile pour nous, dans notre chair, d'aller vers ces choses-là, soit de dire, ah non, on aime tout le monde, on tolère tout le monde, soit de dire, ah, bah, par exemple, je suis un théologien, si vous n'êtes pas d'accord avec tel ou tel point de détail très précis, alors c'est pas la peine de me parler, venez plus à l'église, etc., etc. Et on a malheureusement souvent tendance à aller dans un sens ou dans l'autre. Et pour moi, ça rend parfois même les paroles de Paul difficiles par moment à comprendre. Et par exemple, dans notre texte aujourd'hui, quand il parle du fait de s'éloigner de gens qui causent des divisions dans l'Église, de les rejeter d'une certaine manière, j'ai un petit peu, je me dis, ah, mais on doit aimer, on doit être patient, on doit avoir de la grâce. Alors pourquoi est-ce qu'on... Des fois, on a des choses où on se dit, mais c'est des comportements un peu durs, un peu... Et donc, il y a cet équilibre qui doit rester. On va regarder plus en détail pourquoi. Mais on doit garder à l'esprit qu'il y a besoin de la vérité et qu'il y a aussi besoin de l'amour et de l'unité en même temps. Donc, au verset 17, il dit « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. » Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. On avait vu la semaine dernière qu'on a l'impression presque que Paul a écrit la lettre, que ça se termine. Toutes les églises du Christ vous saluent, au verset 16. Et puis là, on a presque l'impression que Paul, peut-être, il a un dernier truc, il se dit « Ah non, il faut que je rajoute ça », donc il rajoute un petit paragraphe en plus. Peut-être qu'il avait entendu parler de problèmes ou de choses qui se passaient dans l'église à Rome, peut-être que quelqu'un était arrivé, c'était pas un texte qu'il a écrit, je pense, dans l'après-midi, je pense que c'est quelque chose qu'il a travaillé. Et donc il rajoute ce petit avertissement, et il supplie ses frères et sœurs de faire attention aux personnes qui provoquent des divisions et qui font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement qu'ils ont reçu. Et alors c'est un passage très riche et sur lequel on peut dire beaucoup de choses. C'est pour ça que la semaine dernière, quand je suis arrivé vers ce passage, avec l'heure qu'il était, je me suis rendu compte que ça allait pas être acceptable au niveau temps. Et donc on y revient ce matin, et Paul il supplie, et c'est intéressant de noter un contraste, et c'est quelque chose d'important à noter pour nous en tant que croyants, c'est que la foi chrétienne c'est quelque chose où on ne force pas, on n'impose pas, Dieu ne nous oblige pas de l'aimer, Dieu ne nous force pas la main, Dieu ne nous contraint pas, Dieu il nous appelle, il nous donne l'option en quelque sorte, il nous dit voilà ce qui est le meilleur pour vous, faites-le, mais il n'y a pas cette contrainte ou un mauvais intérêt. Et Paul, on le voit, supplie ses frères et sœurs parce qu'il veut leur bien et parce qu'il pense que c'est la volonté de Dieu, et il cherche à les convaincre. Il cherche à raisonner avec eux, à leur dire. Et Paul, on voit qu'il cherche la gloire de Jésus. Jésus, on voit pas qu'il cherche son propre intérêt, contrairement aux gens dont il parle. Et c'est quelque chose qui peut nous montrer si vous êtes dans une église ou si vous êtes avec des personnes croyantes qui se disent croyantes et qu'ils viennent à vous avec des règles ou des comportements qu'ils vous imposent de manière très légaliste avec des conditions si vous faites ça ou ça il faut montrer votre feuille de salaire pour voir si vous donnez bien 10% de votre salaire comme dîme, sinon c'est pas la peine. Est-ce que vous fumez ou pas? Si oui, alors je peux pas vous parler, vous partez s'il vous plaît. Et ce genre de comportement rigide et extrême où il y a un légalisme fort, sans amour et sans grâce, c'est pas l'évangile que nous voyons dans les paroles de Paul. On a vu tout le passage, tous les passages dans la dernière partie de ce livre où il dit justement si vous avez une liberté mais que votre frère a un souci avec quelque chose, aimez votre frère, mais il y a une flexibilité. Et on pense dans la Bible aux pharisiens qui étaient très durs, qui avaient plein de règles extérieures mais qui n'avaient pas le cœur là où il fallait. Et on a vu On voit dans la Bible que Jésus avait vraiment de la haine et détestait ce genre de comportement et ce genre de choses où on imposait juste des règles externes, où on disait juste « Ah ben c'est bon, la personne vient à l'église le dimanche matin, pas trop d'excès, donc c'est bon. » Mais après, est-ce que le cœur est au bon endroit? Ça, c'est pas notre problème, il respecte les règles. Ça, c'est pas le message de l'évangile, c'est pas le cœur du problème. Le problème, c'est notre cœur. Est-ce que notre cœur est au bon endroit? Et ça peut arriver dans des églises, ça peut arriver dans des sectes qui vont venir qui se disent chrétiens, qui vont imposer des choses, et donc on doit faire attention à ce genre de choses si c'est des fardeaux trop lourds, c'est pas l'évangile. Jésus disait venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça c'est le cœur de ce que Jésus veut pour nous. Il nous fait grâce quand nous tombons, il nous détruit pas quand nous échouons, il n'en a pas terminé avec nous. On voit l'apôtre Pierre qu'il avait renié et comment il le relève après. Et vraiment Jésus a tellement de grâce pour nous. Il nous appelle, il nous dit vivez comme ça, il y a telles choses qui sont bonnes pour vous, c'est comme ça que vous devriez vivre, c'est comme ça que je veux que vous viviez, mais il nous fait grâce et c'est un appel. C'est la douceur qui nous appelle à la repentance. Et donc Paul, il supplie ses frères et sœurs, il dit faites attention, marquez ces personnes. Et ici l'idée c'est de mettre un marqueur ou de noter qui ils sont et de vous éloigner de ces personnes. On pourrait dire que on pourrait les appeler les diviseurs ou les trompeurs, ceux qui provoquent des divisions, qui font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu pardon. C'est un danger qui guette beaucoup d'églises. L'ennemi n'aime pas l'Église. Satan est un ennemi réel. Et nous vivons dans un monde où il y a un combat spirituel. Et Satan s'oppose au royaume de Dieu, s'oppose à l'Église et veut, dans la mesure du possible, détruire et briser l'Église autant que possible. Et nous le voyons, si vous êtes chrétien depuis un moment, si vous êtes croyant depuis un moment, malheureusement, vous êtes sans doute au courant ou connaissez des situations dans des églises où il y a eu des divisions, où il y a eu des luttes internes, des problèmes qui ont causé du tort à l'Église, qui ont causé du tort à l'Évangile. Et Satan se sert de choses à l'intérieur de l'Église. Il ne vient pas ouvertement de l'extérieur pour attaquer l'Église. Il le fait de manière plus sournoise. Et si on avait des gens qui venaient devant l'Église, j'en sais rien, mais en disant « moi je suis contre l'Église, je veux tout détruire ici », c'est plus facile pour nous de nous y opposer, c'est pas vraiment une bonne tactique. Par contre, de provoquer des petites divisions, des petites tensions, des petites choses qui petit à petit grandissent dans l'Église, qui pourrissent en quelque sorte l'Église, ça c'est une tactique qui est bien plus efficace, je pense, malheureusement. Et ce genre de personnes, ces gens, Paul, quand il supplie ses frères et sœurs, il y a une idée d'attente ou de surveillance. C'est, si on prend l'idée qu'on est dans une bataille spirituelle, il y a la réalité de veiller, de faire attention, d'être en surveillance pour ce qui se passe, pour ce qui est en train d'avoir lieu dans l'Église. Et il dit faites attention. Et on doit faire attention parce que ce genre de personne ne vient jamais avec un badge. Moi, je suis un diviseur, un pro. J'ai ma carte avec un t-shirt ou un maillot. Moi, j'ai le maillot des diviseurs professionnels. C'est pas comme ça que ça marche. Si on avait quelqu'un qui venait le dimanche matin, bonjour, je suis nouveau, je viens vous diviser. ce serait plus facile et ce serait pas vraiment efficace de leur part. Non, on voit qu'ils viennent de manière détournée, qu'ils utilisent des paroles douces et flatteuses, qu'ils vont tromper, qu'ils vont s'immiscer dans la situation. Et parfois, ça peut même être, ça peut être des gens qui viennent avec vraiment une intention égoïste ou personnelle pour X ou X raisons et qui veulent diviser, qui ont peut-être leur ambition, qui ont peut-être différentes raisons, mais qui sont mal intentionnés, mais ça peut même être malheureusement parfois aussi des gens bien intentionnés, mais qui ne sont pas vraiment dirigés par le Seigneur et qui viennent et qui peut-être s'attachent trop à une vérité ou une cause ou quelque chose et qui sont trop zélés, qui manquent d'amour et qui vont causer des problèmes, qui vont mal parler, qui vont dire à le pasteur oui alors j'en sais rien, ça il le fait pas bien, petit à petit à lui et qui vont peut-être flatter d'autres personnes et puis petit à petit ça va on va le ressentir et c'est toujours très triste. Et c'est toujours horrible quand il y a une division ou une église qui est en situation de on va dire de destruction, qui est pas unie parce qu'il y a une division qui a eu lieu, parce qu'il y a eu des choses comme ça qui sont rentrées et où on n'a pas fait attention, où on n'a pas surveillé, où on n'a pas fait ce que Paul nous demandait. Alors on peut tomber dans un excès inverse où on peut dire bon ben on se méfie de tout le monde, dès qu'il y a un nouveau à l'église on va se méfier et dire attends on va le cuisiner un petit peu avant de le on va mettre un numéro où vous pouvez appeler pour dénoncer les diviseurs, un numéro anonyme. C'est pas là où on doit tomber non plus. En tant qu'être humain, comme je vous disais au début, on tombe souvent dans les excès. On dit bon bah je surveille, ça y est, j'ai tout le monde. Tiens, j'ai pensé à un truc que lui il a dit la semaine dernière et on doit pas tomber dans une paranoïa. Mais on doit faire attention, et Paul nous supplie de remarquer quand quelqu'un cause des divisions, quand ils font trébucher les autres. Donc il nous faut cet équilibre, et la foi chrétienne, quand on voit ce genre de choses, on se dit mais comment arriver? Et c'est là où on a besoin de la grâce de Dieu, et on a besoin de l'Esprit Saint dans nos vies, on a besoin de l'aide de Jésus pour faire ces choses, on a besoin de prier, on a besoin d'étudier la parole de Dieu. Mais il dit bien, on doit s'éloigner de ce genre de personnes. Et c'est quelque chose qui revient, ce genre d'idée. On peut voir dans Matthieu 7, à partir du verset 15, Jésus qui nous dit « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et si le fruit, c'est de la division, c'est de l'opposition, c'est des mauvais sentiments entre les frères et sœurs dans l'Église, alors c'est pas des bons fruits. Il y a d'autres passages. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1, parlant de la division, « Je vous en supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » Et plus loin dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 3, il dit « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine ?» Et puis dans Tite 3, au verset 10, « Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. » En lisant ça et en préparant ce matin, je voulais faire une note spéciale pour les anciens et pour les pasteurs dans les églises, et de nous appeler à considérer leur situation, parce que quand on voit la situation, s'il y a des gens qui viennent et qui provoquent des divisions, qui séduisent ou qui trompent des gens dans l'église, le rôle du pasteur, ou le mot qui est utilisé pour dire pasteur, ça veut dire berger, et l'idée c'est que c'est les pasteurs et les anciens dans les églises sont d'une certaine manière des sous-bergers. Christ est le souverain berger, le grand berger, le bon berger, mais il nous confie aux pasteurs des églises, et il dit veillez sur eux. Et l'exemple d'un berger qui doit veiller pour son troupeau, c'est de faire attention aux loups. L'appel d'un pasteur, c'est de veiller, d'enseigner, de nourrir, mais aussi quand il y a des situations ou des personnes qui viennent. Si s'aperçoit que ce sont des personnes qui viennent avec de mauvaises intentions, qui ont des intérêts égoïstes et qui veulent tromper, diviser, s'opposer à l'enseignement de ce qu'on comprend nous dans la Bible, alors Dieu appelle le pasteur à protéger d'une certaine manière, en éloignant ou en rejetant ces personnes. Et ce sont des situations très très difficiles pour les pasteurs, parce que souvent les gens dans l'église ne le voient pas. S'ils sont séduits par les gens qui ont causé des divisions, ou peut-être qui causent des divisions, les gens qui sont avec ces personnes, ces loups, vont être énervés contre le pasteur, vont pas comprendre. Parfois ça peut être aussi des comportements, il y a des choses qui se passent dans l'église, c'est pas à la vue de tous. Peut-être que quand on voit ici ces personnes qui viennent et qui trompent les gens simples, c'est cette idée de gens simples, c'est peut-être des nouveaux croyants, des gens jeunes dans la foi. C'est l'idée qu'il y a, c'est pas toute l'église qui est trompée initialement, ça peut être peut-être quelqu'un ici ou là. Et ça nous est arrivé ici à l'église d'avoir des gens qui, pour une raison ou pour une autre, peut-être avec un petit groupe de personnes, causaient des problèmes. Et où, ici, alors c'est Pierre qui suite à des demandes, suite à des discussions avec ces personnes, on était amené à demander à ce que ces personnes ne viennent plus à l'église. Et c'est extrêmement difficile pour le pasteur parce qu'il se retrouve, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, où Dieu lui demande de veiller au troupeau et où le troupeau est en train de dire non, tu fais n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais pasteur, c'est ridicule. Et donc ce matin, j'aimerais simplement vous encourager à prier pour vos pasteurs, pour les pasteurs dans vos églises, prier pour qu'ils aient du discernement, mais aussi prier pour vos cœurs, pour avoir de la grâce et de l'amour et de la compréhension pour vos pasteurs quand ils font ce genre de choses. Dans la plupart des cas, les pasteurs ne le font pas à la légère, ils le font le cœur lourd, et ils le font parce qu'ils arrivent à un moment où ils pensent que c'est vraiment essentiel pour la santé de l'Église. Et alors ils peuvent se tromper évidemment, mais priez pour eux parce que ce sont des choses qui, il y a bon nombre de pasteurs qui dorment mal la nuit à cause de situations comme ça, à cause de personnes dans les églises qui causent des divisions et où ils ont du mal à gérer ces situations. Alors on peut regarder ça et se dire d'accord, mais il doit pas avoir à ce moment-là. Est-ce qu'on peut pas on a vu le passage tout à l'heure où Paul parlait d'avoir l'unité, d'être vraiment. Et l'idée c'est pas qu'on ait aucun désaccord. L'idée c'est pas qu'on puisse pas exprimer notre point de vue dans des situations, qu'on puisse pas avoir nos avis, qu'on puisse pas avoir nos différences. On a vu Paul avoir des différences avec des personnes avec lesquelles il était dans le ministère, avec Barnabas notamment, où il était pas d'accord et où ils se sont séparés. Ils ont continué un petit peu dans le ministère, mais de manière séparée. Mais c'est quelque chose de différent dans le sens où c'est un désaccord, mais c'est pas une attaque contre la personne. Paul, parce qu'il était en désaccord avec Barnabas, n'est pas parti en disant du mal de Barnabas à tous les gens dans toutes les églises où il allait, n'est pas parti ne voulant plus jamais voir Barnabas. Et donc dans l'église, on doit avoir aussi la capacité, la possibilité d'exprimer nos désaccords et de travailler ensemble. Mais quand on exprime des désaccords, c'est peut-être comme dans la famille. Je sais pas vous dans vos familles, mais moi je suis souvent en désaccord avec mes parents par exemple ou mon frère. On peut avoir des désaccords forts où on est complètement opposés et on n'est pas du tout d'accord. Mais à la fin de la journée, c'est ma famille, je les aime et il n'y a pas de, je vais pas aller parler à tout le monde en mal de la personne. Je vais pas chercher à ne plus voir la personne. Et donc c'est cette distinction de dire on est une famille, on peut avoir des désaccords, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Cette idée de division, c'est quelque chose de plus sournois. Et on voit Paul dit donc que c'est par des flatteries, c'est par des paroles douces. Et c'est quelque chose qu'on peut noter, de se dire si quelqu'un me parle, me flatte, me dit beaucoup de bonnes choses, d'avoir un petit curseur ou un petit marqueur où on dit tiens ça, est-ce que c'est honnête ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus là? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a une tentative de... Et c'est difficile parce qu'on aime bien les compliments, on aime bien recevoir ce genre de choses. Mais ça peut être quelque chose où les personnes cherchent à arriver à avoir une position d'influence, à dire je vais flatter telle ou telle personne, et après on va avoir tendance à plutôt suivre cette personne. Si vous avez quelqu'un avec lequel vous êtes très ami dans l'église, ou quelqu'un que vous aimez bien parce que vous vous sentez bien avec la personne, si cette personne cause des divisions et que le pasteur le reprend, vous allez plutôt avoir tendance à être du côté de la personne avec laquelle vous êtes ami, etc. Alors, ça semble simple, mais ce sont des choses vraies et compliquées. Et la Bible nous appelle aussi à ne pas faire de favoritisme, à ne pas être à faire preuve d'impartialité. C'est très difficile, mais c'est un petit peu ce qu'on devrait avoir dans l'Église. C'est un côté où on n'accorde pas forcément plus d'importance à une personne qu'à une autre, où on donne pas lui il parle toujours en bien de moi, donc lui dès qu'il me demande quelque chose, oui, ça a pas de problème. Par contre, cette personne-là, plus neutre, je ne vais pas trop lui accorder d'importance. Ça, ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir au Seigneur. Et on voit sur la fin du verset que les motivations de ces personnes, c'est un intérêt égoïste, c'est un intérêt centré sur eux-mêmes. Et en général, ces personnes ne veulent pas apparaître égoïstes. Ils peuvent dire qu'ils défendent une cause ou une vérité ou quelque chose, mais souvent, il y a quelque chose, il y a un intérêt d'une manière ou d'une autre, peut-être de vouloir avoir de l'importance ou de l'estime. Et peut-être, encore une fois, qu'ils ne se rendent même pas compte de ça. En tant qu'être humain, notre cœur est tellement tortueux, comme nous le dit la parole, qu'on peut arriver à ce genre de choses et ne même pas s'en rendre compte ou s'en rendre compte plus tard. Moi, quand je réfléchis à ma vie passée, à ma vie dans l'église ici depuis des années, il y a des situations où je me dis le fait d'avoir parlé sur certaines situations à certaines personnes a peut-être, pour X ou X raisons, peut-être pas complètement, mais en partie, n'a pas aidé dans des situations de division, dans des situations de conflit. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, mais nous devons prier, nous devons demander au Seigneur de garder l'unité, l'amour dans l'Église, mais aussi la vérité, et de nous garder aussi le cœur sensible à ce genre de choses dans nos comportements en premier, de pas causer de division, de pas parler en mal des gens, de vraiment faire attention à nos langues et de vraiment faire attention à comment nous comportons les uns les autres, même dans nos pensées. Il continue au verset 19, il dit « Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Apparemment, ils obéissent déjà à ce que Paul leur a enseigné, peut-être à ce qu'il leur demande ici, le fait de faire attention à ceux qui causent des divisions. Il les encourage encore à obéir. Et c'est vraiment beau pour qu'ils soient connus pour leur obéissance. On peut se poser la question, est-ce que c'est quelque chose pour nous en tant qu'Église qui est une de nos caractéristiques? Est-ce que quelqu'un qui vient ici à l'Église se dit, tiens, il regarde la Bible et ils obéissent à ce que Dieu leur demande de faire, à ce que Dieu veut qu'ils fassent en tant que chrétiens? Est-ce que nous sommes connus pour notre obéissance à la Bible? Et s'il y a quelque chose que Dieu vous a mis sur le cœur, quelque chose que vous avez ressenti fortement peut-être dans l'étude de la lettre de Paul aux Romains, alors faisons-le avec empressement. Si Dieu vous a mis l'impression que vous deviez faire quelque chose, peut-être corriger quelque chose dans vos vies, peut-être changer quelque chose, peut-être vous éloigner de certaines personnes, peut-être avoir plus d'amour pour certaines personnes dans l'Église, etc., etc. Si Dieu vous a mis quelque chose sur le cœur, obéissez. Soyez sages en ce qui concerne le bien. Pierre a déjà plusieurs fois parlé de l'idée que quand on apprend aux gens à reconnaître des faux billets de banque, l'entraînement principal, c'est de manipuler des vrais billets. À regarder des vrais billets, à les sentir. Quand on a un faux billet entre les mains, on va avoir la sensibilité de voir que ça, c'est un faux billet. Et dans la vie chrétienne, l'idée, c'est de, on doit étudier la parole, on doit l'apprendre, on doit méditer dessus, on doit l'étudier, on doit la regarder, parce que quand on fait ça, on va savoir ce qui est bizarre. Ça va tout de suite, plus on grandit dans notre connaissance de la parole, plus on grandit dans notre connaissance de Dieu, plus on va pouvoir identifier des choses qui ne sont pas correctes, des choses qui sont mauvaises. Et ici, on a l'impression que Paul leur dit « Soyez sages en ce qui concerne le bien, ayez une concentration sur ce qui est bon, ce qui est bien. » Ensuite, il leur dit « Soyez sans compromis avec le mal. » Et donc là, le contraste, c'est de dire qu'on se concentre sur ce qui est bien, et par contre, sur des choses qui sont mauvaises, on doit ne pas avoir de compromis, on ne doit pas jouer avec le feu, en quelque sorte. On ne doit pas tolérer des choses où on, si Dieu nous met quelque chose et nous reprend sur quelque chose où il nous dit, où on a le sentiment que ça c'est mauvais, si notre conscience nous dit ça c'est mauvais, si on dit oui, mais je vais garder un petit peu, ou je le ferai plus tard, ou on va tolérer un petit peu et on se retrouve piégé par l'ennemi. On voit les exhortations de Jésus lui-même de manière imagée où il disait mais si ta main t'amène à pécher, coupe-le. Et alors, c'est pas littéralement qu'on doit prendre ça, mais c'est l'idée qu'on ne doit pas avoir de compromis avec le mal. S'il y a quelque chose qui nous cause des problèmes, on doit couper. Et ça va aussi avec l'idée des personnes. Et c'est vraiment quelque chose qui est difficile, je pense. C'est cette idée dans l'Église. Juste en note pour ces personnes qui causent des divisions, l'idée c'est pas de nous éloigner des gens qui ne sont pas croyants. Des gens qui ne sont pas croyants, c'est pas le problème, ils sont pas croyants, c'est autre chose. Mais des gens qui se disent croyants en Jésus, qui se disent disciples de Jésus et qui causent des divisions ou qui causent des problèmes, c'est ce genre de personnes où Paul nous appelle à nous éloigner d'eux. Et c'est quelque chose qui est vraiment difficile parce qu'on a du mal à le faire, et parce qu'on a le sentiment aussi que Dieu nous dit « Ah oui, il faut aimer, il faut avoir de la grâce, il faut être patient, c'est le caractère d'un chrétien, on tolère, on dit rien, on aime. » Mais plusieurs fois, dans plusieurs passages, il y a cette idée qu'on reprend les gens, on voit que s'ils causent une division, on a vu dans Matthieu 7, si dans 1 Corinthiens, dans Tite. Si on doit reprendre la personne, on vient à elle et on dit « Ouais, il faudrait que tu arrêtes de causer ces divisions. » Mais si on voit que ça persiste, on reprend. Et à ce moment-là, on doit s'éloigner. Et il y a l'idée de dire « On doit être sans compromis. » Et si c'est quelque chose qui nous pose un problème dans notre foi, où on voit que peut-être que j'en sais rien, peut-être par exemple quelqu'un qui dit du mal à l'église de quelqu'un d'autre, ça peut nous donner envie de pas venir à l'église. On se dit non, j'ai pas envie de venir. Le pasteur, je suis d'accord avec toi, le pasteur il est pas bien. Je vais rester à la maison et ne plus venir à l'église et je vais faire mon propre truc. Et ça peut petit à petit nous détourner, nous amener dans quelque chose de pas bon pour notre santé spirituelle. Et Paul dit, soyez sans compromis avec le mal. Il a une tournure intéressante ici où il dit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et c'est intéressant comme tournure parce que c'est l'action de Dieu, mais c'est sous nos pieds qu'il écrase les choses. C'est un verset qui nous donne espoir, parce qu'on dans la lutte avec Satan, on se décourage, mais il dit ça, la victoire va arriver. Et ça nous renvoie tout au début de la Bible, dans la Genèse 3:15, quand il est question de après la chute de Satan et du fait que il y a ce qu'on appelle le proto-évangile et l'idée que Jésus va écraser la tête du serpent. Et c'est une sorte de rappel à ça. Et c'est une belle chose et c'est un espoir d'avoir cette victoire à la fin, parce que des fois, dans des situations où il y a des difficultés, où il y a des divisions, on a du mal à endurer. Mais on a cet espoir que Jésus a déjà gagné la bataille et va finaliser la bataille. Chapitre 16, verset 21. Timothée, mon collaborateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes compatriotes. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, qui m'accueille et chez qui toute la ville se réunit, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus. Donc après cet avertissement, ce petit passage, là on a l'impression encore qu'il y a peut-être Paul est dans une maison à Corinthe et les gars qui sont avec lui disent « Ah, moi aussi j'ai envie de dire bonjour, tu peux me mettre aussi ?» Donc il y a Timothée qui était le disciple qui était très cher à Paul, qui faisait beaucoup avec Paul. Lucius, Jason et Sosipater, on ne sait pas vraiment qui c'est, les compatriotes, donc sans doute des juifs. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui écrit cette lettre. Là, on se dit, tiens, c'est bizarre, on m'a dit que c'était Paul qui écrivait. Mais l'idée, c'est que c'était Tertius qui était le secrétaire, en quelque sorte, qui écrivait à la main. Paul lui dictait, et lui, il écrivait à la main. Et donc, à la fin, il rajoute sa petite « moi aussi, qui vous ai écrit physiquement cette lettre, je vous dis bonjour. Ensuite, Gaius, qui m'accueille et chez qui toute l'église se réunit, vous salue. » Donc, quelqu'un qui avait une maison chez qui l'église pouvait se réunir à Corinthe. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Cartus. Encore une fois, on ne sait pas grand-chose sur ces personnages. On a trouvé des inscriptions sur une tombe de la ville où il y a le nom d'Eraste. Encore une fois, cette connexion à l'histoire dont on a parlé la dernière fois. On peut noter ici, et c'est intéressant, que on voit des juifs, on voit des grecs. Les deux personnages, là, Tertius et Cartus, la plupart des commentateurs s'accordent pour dire que c'est des noms. En gros, c'était numéro 3 et numéro 4. Ça fait un peu spécial là, en grec, mais il y a numéro 3 et puis numéro 4 qui vous salue aussi, quoi. Et l'idée, c'était qu'a priori, c'était des esclaves à qui le nom était égal, donc on leur donnait des numéros, quoi. Il y avait le esclave 1, esclave 2, esclave 3, esclave 4, etc. Donc là, 3 et 4 vous saluent. Et puis on voit en même temps qu'il y a Gaius qui a une maison, donc qui avait sans doute plus de moyens, et Eraste qui est le trésorier de la ville, donc qui était quelqu'un de peut-être un des plus, quelqu'un d'important, un noble, en quelque sorte, de la ville. Et ce qui est beau, c'est qu'on voit qu'ils sont tous ensemble dans l'Église, qu'il n'y a pas de différence, qu'ils sont juifs, grecs, importants, esclaves, que Paul ne fait pas de distinction, que Jésus ne fait pas de distinction dans l'Église, ils sont tous ensemble. Et ça, c'est vraiment une belle image. Verset 25, « Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. À ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. » Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ. Encore une fois, quand moi je lis les choses dont parle Paul, bien souvent je me dis, mais Dieu, comment est-ce que je vais arriver à tenir ce genre de comportement? Comment est-ce que je vais arriver à obéir à toutes ces choses que tu demandes? Et la réalité, c'est que par moi-même, dans ma chair, je ne peux pas. Et c'est par la grâce, c'est par la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Et c'est grâce à Dieu qui, lui, peut nous affermir dans cet évangile. C'est lui qui va nous tenir ferme, c'est lui qui va nous permettre d'arriver à obéir à ces choses. Et ça doit nous donner une grande joie, une grande paix. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ, en son sacrifice. Nous sommes sauvés parce que nous croyons en lui, nous sommes acceptés à cause de son sacrifice. Et nous avons la paix là-dedans. Si nous chutons par moments, si nous faisons des erreurs, il est fidèle pour, si nous demandons pardon, si nous revenons à Dieu, il est fidèle pour nous pardonner, pour dire je vous reprends. Et c'est Dieu qui a affermi. Comme je vous disais, quand je préparais ce matin, je pensais à des situations et je me disais, mais même parfois dans mes bonnes intentions, même parfois quand je veux faire le bien, même parfois quand je me dis, ça c'est vraiment là, je pense que c'est ce que Dieu veut que je fasse et on fait la chose et derrière ça blesse quelqu'un ou ça cause une division parce qu'il y a quelques et je connais des pasteurs plus vieux que moi qui disent que quand on regarde notre ministère, notre passé, tout ce qu'il y a de bon en quelque sorte, c'est par la grâce de Dieu et c'est parce que c'est lui qui était à l'œuvre, c'est lui qui faisait. Et donc en même temps, il y a une sorte de mélange de oh là là, Dieu, qui suis-je, enfin comment je pourrais arriver à faire quoi que ce soit. Et en même temps, il y a cette paix, cette joie parce que c'est Jésus qui le fait à travers nous et que nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons nous accrocher à lui et savoir que c'est lui qui bâtit son église, c'est lui qui va nous affermir et qui va nous garder. Paul finit, alors il parle du mystère, et le mystère c'est l'idée du plan du salut dont il a parlé dans Romains, cette idée que dans l'Ancien Testament il y avait des prophéties mais on n'avait pas bien compris, on voit que les Juifs n'avaient pas bien compris exactement ce dont il s'agissait, et le mystère en fait c'est Jésus lui-même. Et donc il dit, ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel. Afin que les nations obéissent à la foi. Donc il y a cet appel à ce que tous les hommes répondent à cette révélation. Et puis il finit avec ce verset de louange. Après avoir contemplé toute la richesse et toute la grandeur du plan du salut de Dieu pour l'homme, il finit en disant à ce Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. En réfléchissant à toutes ces choses, en réfléchissant à tout ce qui est Dieu, à tout ce qui est Jésus, à tout ce que nous avons en tant que croyants grâce à ça, la réponse normale, la réponse naturelle, c'est la louange à Dieu. Parce que c'est incroyable et parce que c'est merveilleux. Prions. Seigneur, merci pour ton salut, merci pour Jésus, merci pour ta venue sur terre, Jésus, merci pour ton sacrifice, merci pour ta sagesse, pour ce plan merveilleux, Seigneur, que Paul nous a décrit. Seigneur, nous sommes perdus sans toi, nous sommes malheureux, Seigneur, sans toi, mais en toi il n'y a plus de condamnation, Seigneur, rien ne peut nous séparer de ton amour. Quand nous venons à toi, merci Seigneur, parce que tu es tellement, tellement grand, tellement bon. Seigneur, aide-nous à recevoir ces choses, Seigneur, à les mettre à profit, Seigneur. Tout ce livre, toutes les choses que nous avons vues pendant toute cette étude, Seigneur, aide-nous à les garder à l'esprit, Seigneur, à les ruminer. À les appliquer. Seigneur, toi seul es sage, toi seul es le Dieu éternel. Et Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, dans nos vies. Entendons-nous prions ce matin. Amen.